Séquence Midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, merci de commencer cette semaine en notre compagnie. Séquence Midi, c'est en direct du lundi au jeudi de 12h30 à 13h avec vos découvertes musicales, votre agenda et bien sûr vos invités. Aujourd'hui, on parle de l'attribution des terres agricoles, ce sera en seconde partie d'émission. Et tout de suite, on découvre une association basée à Lussac-les-Châteaux, c'est l'ADEC, donc l'association Agir durablement pour l'emploi et la création de liens. Et on est en compagnie d'Olivier Jean-Claude, directeur. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour nous présenter donc cette association qui est en train de se développer à Lussac-les-Châteaux. Alors, elle est née il y a une trentaine d'années.
Alors, exactement, bientôt 34 ans.
34 ans.
Au 10 juin 2024.
Et donc, quel était son objet au départ?
Alors, au départ, l'ADEC, c'est une association, c'est d'ailleurs d'abord des travailleurs sociaux qui ont constaté qu'il fallait accompagner des gens qui étaient bénéficiaires du RMI. Donc, ça date des années 90. Et puis, au fil du temps, l'association s'est créée, un conseil d'administration, la structure même de l'association 1901 s'est créée, avec des professionnels qui ont accompagné des bénéficiaires du RMI. Et au fil du temps, des chantiers d'insertion se sont créés, un espace de vie sociale et un pôle mobilité qui existe maintenant. Et que, voilà, c'est la configuration actuelle d'aujourd'hui. Trois chantiers d'insertion, un espace de vie sociale agri-CAF et un pôle mobilité. On fait de la location de scooters.
On va développer ces différentes activités. Et aujourd'hui, quels sont vos publics que vous accueillez?
Alors, nous accueillons essentiellement des gens qui sont en recherche d'emploi. Les ateliers de chantier d'insertion, ce sont un agrément donné par l'État qui permet de financer des structures d'insertion comme la nôtre. Mais vous avez d'autres associations. Il y a plein d'associations dans le département de la Vienne, puis même au niveau national. Et on accueille des gens qui sont très éloignés de l'emploi. Donc, des gens qui sont prescrits par Pôle emploi. Et aussi, maintenant, de plus en plus au sein de l'ADEC, des jeunes de 18 ans qui sont envoyés par la mission locale.
Et alors, vous êtes en milieu rural. Est-ce que ça donne une couleur particulière à ces chantiers d'insertion, à votre association?
Alors, ça donne, je ne dirais pas que ça donne une couleur particulière. On est confronté, comme tout milieu rural, à des problématiques de mobilité, d'accès aux droits, d'accès à la santé, tout ça. Et effectivement, l'ADEC, c'est quand même 40 salariés en insertion aujourd'hui, accompagné par 9 permanents. Ça veut dire qu'un gros travail qui se fait auprès de ces personnes qui sont fragilisées et je dirais même qui ont eu des accidents de parcours parfois. Donc nous, le principe de l'atelier de chantier d'insertion, c'est d'aider ces gens à rebondir et à être employables pour retrouver vraiment un emploi et tout ce qui va avec, quoi.
Vous avez aussi un espace de vie sociale, en quoi ça consiste?
Un espace de vie sociale, c'est un agrément qui est donné par la CAF, c'est comme les centres sociaux, sauf que c'est microscopique, on va dire, à l'échelle d'un centre social. Nous, l'idée, c'est de travailler le lien social, parce qu'effectivement, ce qu'on remarque en territoire rural, mais ça se constate aussi même en milieu urbain, dans les quartiers populaires, y a des gens qui sont effectivement, qui peuvent être très éloignés de lien avec l'autre, avec l'accès aux loisirs, l'accès à la santé. Et notre espace de vie sociale, il se situe à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est comment on peut capter ces gens, comment on peut aller les chercher pour les ramener soit à une vie, on va dire, sociale, même s'ils en ont déjà une, hein, ces gens-là, mais ils leur permettent de faire découvrir d'autres choses, d'autres activités, d'autres espaces de vie. Et nous, on a retravaillé donc notre agrément CAF, en 2023, et on a donné une couleur un peu particulière en disant que on va s'appuyer sur les chantiers d'insertion et puis on va se situer comme relais. Relais avec la MJC 21 à Lussac-les-Châteaux, les autres MJC du territoire, parce qu'on ne travaille pas que à l'échelle de Lussac, mais globalement sur toute la communauté de communes de Vienne-et-Gartempe.
Alors on va détailler les trois chantiers d'insertion que vous proposez. D'abord, aménagement du cadre de vie, en quoi ça consiste?
Alors ça c'est le nom qui pose toujours question, officiel, voilà, il va peut-être falloir qu'on y réfléchisse, ça change un petit peu. Ce chantier en fait, c'est donc aménagement cadre de vie, c'est à la fois l'espace vert, tout ce qui est travaux d'espace vert. À une époque, ça a été aussi la petite maçonnerie, remonter un mur. Alors, on travaille beaucoup avec les collectivités locales, les mairies, du Lussacois, puis même un peu au-delà. On travaille aussi avec les particuliers. Donc voilà. Donc nous, c'est l'espace vert, l'entretien, tonte, taille. On travaille beaucoup aussi avec des donneurs d'ordre, hein, comme le Civer, Haute-Vienne, l'AFPA, Sorégie, qui nous donnent des chantiers. Alors bon, c'est du marché public. Hein, on est confronté aux mêmes réalités que les entreprises. Sauf que nous, on a une clause sociale qui nous permet d'accéder plus facilement. Voilà. Et donc on travaille dans ce cadre-là.
J'imagine qu'il y a beaucoup de travail en ce moment.
Alors, on est un peu débordé.
C'est un peu la période.
La météo nous a pas aidé.
En plus.
Beaucoup de pluie, des hauteurs absolument dingues. Donc, effectivement, c'est beaucoup de travail. Et je tiens simplement à saluer les salariés en insertion. Parce que c'est pas des professionnels au départ. Donc là, ils font un gros travail en ce moment. Et ben voilà, il y a des délais à respecter et c'est un peu compliqué.
On pense à eux. Un petit peu lié, il y a un chantier Serre et Jardin.
Serre et Jardin, c'est un autre chantier qui accueille une dizaine de salariés en insertion. Et les chantiers sont toujours, ce sont des encadrants techniques qui encadrent ces chantiers et qui accompagnent les salariés. Donc ce chantier, c'est de l'horticulture. On avait une partie maraîchage qu'on a volontairement laissé de côté parce que c'était un peu compliqué. On fait de la production de plants de légumes, de plants de fleurs aussi, et on travaille beaucoup avec surtout les particuliers, mais l'idée c'est de développer ce chantier aussi économiquement, parce qu'on a quand même, comme toutes les associations en ce moment, c'est un peu compliqué.
Besoin de fonds propres,
besoin d'aide aussi des pouvoirs publics, et ce chantier est un beau chantier parce que voilà, on a une belle production là, et cette année ça a été assez exemplaire. Donc ouais, on vend et on essaye de se faire connaître, voilà.
Donc il est encore possible de venir acheter des plants.
Il est tout à fait possible de venir. Venez vite. Alors on n'aura peut-être pas tout ce qu'il faut pour vous, mais au moins venez aussi nous rencontrer. L'idée c'est de rencontrer aussi parce que les salariés sont aussi en situation de vendeur, donc il y a un contact avec la clientèle et c'est important pour eux aussi de valoriser leur travail.
Et puis c'est le troisième pôle qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est la ressourcerie, puisque c'est celle-ci qui est en train d'évoluer. En quoi elle consiste exactement ?
Alors, la ressourcerie, avant on appelait ça le dépôt-vente chinetterie, parce qu'il y avait deux formules, hein, une formule où les gens donnent, et puis aussi un dépôt-vente, hein, où on peut venir, on a un contrat avec la structure, et puis on récupère 70% de la vente. Ce chantier, il existe depuis 1992, donc c'est pas... voilà, c'est quand même important. Et puis on a voulu aussi depuis quelques années trouver de nouveaux locaux parce que nos locaux sont un peu vieillissants et que ils répondent pas forcément à toutes tous nos besoins. Donc on a effectivement un projet de nouveaux bâtiments. Alors c'est un projet qui se fait pas tout seul, hein, parce que l'association elle-même ne peut pas tout porter. Donc on fait appel aussi aux collectivités, notamment la CCVG, la mairie de Lussac, qui nous accompagnent et qui sont de bons conseils. Voilà, donc on est en train de réfléchir à monter ce projet avec les pouvoirs publics pour justement, on va espérer dans 2 ans avoir un local, mais voilà, ça c'est le souhait.
2 ans, c'est
ouais,
l'objectif.
Ouais, c'est l'objectif. Même si c'est avant, ça serait très bien. Mais voilà.
Et en termes de moyens, vous parliez des collectivités locales. J'imagine qu'il y a le département aussi, peut-être l'État. Donc, je ne sais pas comment vous arrivez à financer tout ça.
On a un financement de l'État parce qu'on a un agrément État pour les ateliers de chantier d'insertion. Donc l'État nous aide à financer l'intégralité de tous les salaires des salariés en insertion. Hein. Ils ont bien des contrats à durée déterminée d'insertion. Donc on les considère comme salariés. Nous avons aussi un cofinancement du département pour nous accompagner sur les chantiers. On a donc le département qui est un gros financeur, hein, de l'association et même pour toute structure d'insertion comme la nôtre.
Puisqu'il a la mission sociale.
Hein. Il a la mission sociale, tout à fait. Et donc nous avons aussi la communauté de communes, hein, qui nous accompagne financièrement avec une subvention annuelle, qui nous met nos locaux aussi. On a des locaux qui appartiennent à la CCVG, ils nous les mettent à titre gratuit pour pouvoir fonctionner. Nous avons la CAF et la MSA qui nous financent par rapport à l'espace de vie sociale. Et là, voilà, je pense que je n'ai rien oublié.
Donc ça, c'est pour le fonctionnement global de l'association, mais voilà. Ça ne permet pas forcément de financer un nouveau projet comme vous
le... Ça ne permet pas forcément de financer de l'investissement. Et là, effectivement, on va avoir la région, le département aussi, qui nous aide beaucoup sur du financement.
Et que permettra ce nouveau bâtiment, en plus d'avoir plus de place ?
Alors... peut-être pas plus de place, mais au moins que ce soit cohérent. L'idée, c'est de rassembler toutes les activités sur un seul site, De nous faciliter aussi le travail d'accompagnement, parce qu'il y a deux accompagnatrices socioprofessionnelles qui accompagnent, en plus des encadrants techniques, sur tout le volet social et professionnel. Le projet des salariés aussi, parce que l'idée, c'est qu'on vient en atelier de chantier d'insertion, c'est parce qu'on a aussi un projet de vie, un projet professionnel. Donc, ces accompagnatrices socioprofessionnelles font un gros travail voilà, sur leur projet. On accompagne les gens, on prend le temps. Voilà, l'idée, c'est de prendre le temps avec nos salariés pour arriver à ce qu'ils soient employables. Et on a de belles réussites.
Eh bien, un grand merci, Olivier Jean-Claude, donc directeur de l'ADECL, d'être venu nous parler de ces chantiers d'insertion donc situés à Lussac-les-Châteaux. Et puis, le message est passé pour tout soutien pour ce nouveau projet.
Merci beaucoup de votre accueil.
On continue en musique. D'un côté, Fabien Leclerc, alias Le Motel, producteur électro-hip-hop bruxellois qui a collaboré avec la nouvelle scène rap. Et de l'autre, Magougou, rappeur nigérian, expatrié au Royaume-Uni et donc qui écrit en pidgin, c'est de l'anglo-nigérian. Ce duo créatif est plutôt dans un registre minimaliste et dansant. Et on écoute tout de suite On Topper.
Do my thing, I do my thing, bro, back, back, go raise, I never been butter. See them times, I know if it just suffer. From Gary to pizza and burger, I did broke, I broke, they no bother. Bank and country, no get no rapper. Afro combo, no fi go baba. I'm a ex, it give me drama. Switch them up, make my co-op. Big dog game, and I play with pop. Anyone test like they get pop, pop, pop. Ninja on top, triple G on top. That's what's up, I'm a yeah, guy must drop. Guy must drop. Who wants suffer, who no one leave better. Kill off a goosey goat meat and never. Trips abroad, when I'm bored. Moving sharp, shining sword. Is a must, thank the Lord. All my life in a B.A.W.A. Suffer, suffer, everyday man don't do. Bad energy, back to spend that time too. Cash they rule, everything like they would. Get that cream, with my team. Laser beam on any man, we won't touch my food. Whoa, we no get ease up, man, till we reach on top. Whoa, we put the work in, man, so we need no luck. Whoa, plant the seeds right now, we go chop the crop. Whoa, we no go ease up, man, till we reach the top. Top, at top, at top, top, at top, at top. Top, at top, at top, top, at top, at top. Top, at top, at top, top, at top, at top. Top, at top, at top, top, at top, at top, top, top. Condition don't make crayfish don't bend. Bad belly is allowed though and no send. Everyone got opinions, one or two.
Shut your stupid mouth.
I do my thing, not for the nobody trend. They my lane, give me cash. 20 MPH on dash, catching crews, pay my dues. I'm always see reward at last. Don't buy cars, soon buy house. Success over no stupid clout. Self-made man, got big plans. Soon come, we go, they run them out.
We go run them out. Who they think they be? Yeah?
We go run them out, no fish out. Back my top when I run my mouth. Full belief, no get out. Rainy season, not in drought. Whoa, we no get ease up, man, till we reach on top. Whoa, we put the work in, man, so we need no luck. Whoa, we plant the seed right now, we go chop the crop. Whoa, we no get ease up, man, till we reach the top. Top, at top, at top, top, at top, at top. Top, at top, at top, top, at top, at top. Top, at top, at top, top, at top, at top. Top, at top, at top, top, at top, at top, top, top.
Dans la clarté.
Pulsar, c'est bon.
D'accord, personne ne dit le contraire.
Point d'exclamation.
Et on accueille tout de suite Hervé Olivier, directeur adjoint de la SAFER Nouvelle-Aquitaine. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. On vous a invité à vous exprimer dans cette émission suite à un appel de M. Bruno Belin, donc sénateur de la Vienne, qui interpellait le gouvernement sur l'accès aux terres agricoles pour les agriculteurs. Et donc, c'est l'occasion pour nous d'en parler avec vous, de comment ça se passe au niveau de la SAFER et quelles sont les difficultés peut-être que vous rencontrez actuellement. Lui, ce qu'il interrogeait, c'est la question de la souveraineté alimentaire. Alors peut-être pour nos auditeurs et auditrices, d'abord nous expliquer un petit peu comment ça se passe lorsque des terres agricoles sont mises en vente.
Alors normalement quand on veut vendre des terres agricoles, on va voir ou son notaire ou la SAFER pour leur expliquer qu'on est vendeur. Si on a un acquéreur, on va voir son notaire, on signe un sous-sein, un compromis, et le notaire informe la SAFER de cette transaction et la SAFER dispose d'un droit de préemption qui peut lui permettre d'acquérir le bien si elle pense qu'il y aurait peut-être mieux à faire que de laisser la personne qui avait envisagé d'acheter la propriété de le faire. Donc ça, c'est une partie de l'activité de la SAFER. L'autre option, c'est le propriétaire vient voir la SAFER et demande à la SAFER de lui trouver des acquéreurs pour ses parcelles.
Alors, est-ce que ces dernières années, il y a des difficultés particulières d'accès aux terres agricoles pour les agriculteurs, peut-être des questions de coûts?
Oui, alors c'est très variable en fonction. Nous, la SAFER Nouvelle-Aquitaine, hein, on est sur l'ensemble de la région de Nouvelle-Aquitaine et les situations des départements et des différents territoires est très variable en fonction de la vitalité, des problématiques qu'on peut rencontrer. Mais c'est sûr que aujourd'hui c'est compliqué, notamment pour les jeunes agriculteurs, d'acheter du foncier, soit parce que il y a de la concurrence, soit parce que le prix du foncier et le prix, les montants qu'il faut réunir pour acheter une propriété agricole sont importants et que c'est difficile pour les jeunes de trouver du financement compte tenu du manque de rentabilité générale que on observe en agriculture.
Vous dites qu'il y a des différences en fonction des départements. Est-ce que vous sauriez nous dire comment se situe à peu près la Vienne ou pas forcément?
Alors, alors la Vienne est un département où il y avait. Alors, il y a deux. On va dire que ça reflète assez la bonne santé des filières agricoles du département. Dans les zones d'élevage, c'est plutôt compliqué. Dans les zones céréalières, il y a plus. Enfin, dans les zones d'élevage, c'est plutôt compliqué de trouver des acquéreurs finançable pour reprendre des exploitations. Dans les zones céréalières, on a plutôt beaucoup de candidats parce que les filières céréalières vont plutôt bien.
Peut-être pour le mode de vie aussi qui attire plus que celui de l'élevage. En tout cas, là où nous alerte M. Belin, c'est que d'ici à 10 ans, un tiers des agriculteurs seront partis à la retraite. Ça, vous le ressentez déjà, j'imagine, au niveau de la SAFER sur les transactions?
Oui, ça fait longtemps qu'on s'inquiète à la SAFER hein, de la disparition des agriculteurs et de la nécessité de renouveler une génération en agriculture. Et d'ailleurs, l'installation des agriculteurs est une priorité à la SAFER.
Alors, il y a la question de la concurrence, vous le disiez, avec des investisseurs, des groupements d'entreprises qui ont peut-être plus les moyens que de jeunes agriculteurs qui voudraient s'installer. Est-ce que ça, vous le voyez, j'imagine, dans la région, une région riche et agricole comme la Nouvelle-Aquitaine?
Oui, bien sûr. Alors, ça dépend beaucoup des secteurs et des productions, hein, mais notamment... Les besoins en foncier sont de plus en plus importants et sont soumis à de plus en plus de problématiques complexes et diverses, ce qui nous rend, nous, un peu schizophrènes parce que à la SAFER, on nous demande à la fois d'installer des jeunes agriculteurs et de favoriser la souveraineté alimentaire, de produire, mais en même temps, on nous demande d'aider les collectivités à faire du développement économique, c'est-à-dire d'urbaniser des terres agricoles, et à la fois, on nous demande de protéger les ressources naturelles et l'environnement, et souvent, c'est peu compatible avec une agriculture très intensive. Donc, tout ça, c'est une question d'équilibre, ça fait partie des sujets, je pense, que vous vouliez évoquer, mais l'attrait des énergies renouvelables est aussi de nature à provoquer de la complexité et de la concurrence sur le foncier.
Oui, mais effectivement, on peut développer cet aspect-là parce que il y a maintenant aussi ce besoin de développer de plus en plus les énergies renouvelables, à la fois souveraineté alimentaire d'un côté, autosuffisance énergétique de l'autre. Souvent, ça a besoin de beaucoup d'espace. Ces deux volontés, comment on arrive à équilibrer tout ça, à faire vivre tout ça sans qu'il y ait trop de tensions au niveau des terres?
Oui, alors c'est bien compliqué, parce que c'est faire le tout et le contraire, c'est faire deux choses qui ne sont pas forcément compatibles. Alors là-dessus, la loi APER, hein, d'accélération des énergies renouvelables, a fixé un peu le cap, c'est-à-dire que nous on était très inquiets de voir qu'il n'y avait aucune limite pour construire des centrales photovoltaïques au sol en zone agricole. Donc la loi APER a un peu remis de l'ordre dans l'histoire en disant maintenant on ne peut plus construire des installations photovoltaïques sur des terres agricoles ou naturelles. Donc c'est plus facile pour nous maintenant d'y voir clair. Et quand on met des panneaux photovoltaïques sur des terres agricoles, ça s'appelle de l'agrivoltaïsme et ça, il y a des conditions qui font que tous les projets qui vont sortir à partir d'aujourd'hui, il faudra que l'agriculture reste efficace et permette la souveraineté alimentaire, puisque tous les projets qui seront acceptés n'admettront pas une perte de la productivité agricole de plus de 10%. Ça veut dire qu'il va falloir, sur le même foncier, concilier les enjeux à la fois d'énergie renouvelable et à la fois de production.
On ne pourra pas créer une exploitation, une fausse exploitation, ça c'était un petit peu la crainte aussi, fausse exploitation agricole pour en fait mettre des panneaux photovoltaïques.
Alors c'est ce qui était possible de faire jusqu'à l'année dernière, où effectivement on avait des projets alibi, où on nous présentait des centrales photovoltaïques au sol en zone agricole en nous expliquant qu'on allait mettre 3 moutons et qu'on allait conserver un agriculteur. C'est justement à cause de ça que le législateur a essayé de définir des règles qui font que maintenant, alors on va voir à l'usage, hein, parce que les décrets viennent de sortir et ils sont un peu complexes à analyser et à mettre en œuvre, mais normalement, on ne doit plus voir apparaître des centrales de photovoltaïque, c'est-à-dire que des panneaux sur des terres agricoles, puisqu'il faudra qu'il y ait un taux de couverture qui soit inférieur à 40% et que la perte du rendement agricole ne soit pas supérieure à 10%. Et donc il y aura des contrôles et des examens et donc il va falloir trouver et des technologies et des cultures, des technologies dans les énergies renouvelables et des cultures qui permettent à la fois de produire de l'énergie photovoltaïque et de continuer à avoir une vraie production agricole.
Alors, Monsieur Belin, prenez un exemple, c'est celui sur la commune d'Adrier. Il y a un appel de candidature pour un domaine agricole de 630 hectares. Il disait que vu la superficie conséquente de ces terres agricoles, aucun jeune agriculteur ne pourrait les acquérir et donc se laisser la place aux investisseurs, alors que selon lui, il serait possible d'installer 3 à 4 jeunes sur ce domaine. Quelle est, vous, votre marge de manœuvre dans ces cas-là?
Elle est compliquée, hein. Alors effectivement, quand on a des exploitations, et il y en a quelques-unes dans votre département, des significatives, ça représente des budgets très significatifs et ça rend difficilement possible l'installation de jeunes agriculteurs. Et donc nous, on essaye de regarder comment on peut essayer de concilier ça. Alors on propose des solutions de portage, de stockage, de location-vente pour faciliter l'installation de jeunes agriculteurs. Dans le cas de l'exploitation des Adriers, donc on est plutôt en secteur d'élevage. C'est un secteur où on a fait un appel à candidature. On n'a pas eu d'autres candidats, que ce soit à l'agrandissement, à la consolidation ou à l'installation, hein. Donc c'est difficile de trouver des solutions quand on n'a pas de candidats. Et c'est un peu la difficulté qu'on rencontre de plus en plus, c'est-à-dire qu'il y a bien des candidats à l'installation, mais d'abord, ils sont pas sur des projets de reprise de grosses unités et parce qu'ils n'ont pas les financements. Et c'est en ça que, à la SAFER, on essaye de trouver des solutions pour le financement du foncier et on essaye de voir si, dans certaines conditions, on peut pas justement utiliser l'agrivoltaïsme pour faciliter l'installation des jeunes agriculteurs.
Vous n'avez pas la possibilité de diviser ce grand domaine, par exemple?
On peut, mais faut trouver une solution sur la totalité. On l'a déjà fait, hein. On l'a déjà fait, par exemple, sur des propriétés viticoles dans le Cognac. Donc, quand on a la possibilité de le faire et quand on a des demandes, on le fait. Mais il faut trouver une solution pour la totalité de la propriété.
Une dernière question, Hervé Olivier. Le sénateur interroge donc le gouvernement sur les moyens, les mesures qu'on pourrait mettre en place pour faciliter l'accès aux terres agricoles aux agriculteurs, et notamment pour cette souveraineté en matière agricole, et puis le renouvellement des générations en agriculture. Vous, si vous aviez quelques pistes à évoquer aujourd'hui à ce micro, qu'est-ce que vous pourriez nous dire ?
Dans les projets du gouvernement, hein, on parle de foncière qui serait, donc on attend des informations du gouvernement sur le sujet, hein, mais le problème de l'installation, c'est le financement de l'agriculture. Alors la première, ce serait que les agriculteurs puissent vivre bien de leur travail et donc aient la capacité à rembourser des emprunts, hein, ce qui est compliqué dans un certain nombre de productions. Et donc à défaut de ça, il faut malheureusement trouver des investisseurs qui vont permettre de rendre possible l'acquisition de ces propriétés par des agriculteurs. Et l'objectif, c'est de mettre en place des systèmes qui fassent que les agriculteurs soient sécurisés dans leur accès au foncier et que les revenus, par exemple, du photovoltaïque soient équilibrés et reviennent de manière significative auprès des exploitants.
Un grand merci Hervé Olivier, donc directeur adjoint de la SAFER Nouvelle-Aquitaine, d'être intervenu dans Séquence Midi. Bonne journée.
Au revoir.
Demain, dans Séquence Midi, on accueillera Joëlle Pelletier, qui est vice-présidente du département de la Vienne, pour le lancement du site internet de l'Atlas des paysages de la Vienne. Tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. Avec une collecte de sang à Saint-Benoît, c'est ce lundi de 15h à 19h dans le hall de la Une. Plusieurs expositions, une de Stéphane Texereau qui débute aujourd'hui à Valence-en-Poitou, qui sera présente jusqu'au 31 juillet sur les murs de Louvre-Boîte. Le vernissage est prévu le 7 juin à partir de 18h. L'entrée est libre et gratuite durant toute la durée de l'exposition. Autre exposition de photos cette fois qui débute aujourd'hui jusqu'au 21 juin à la Maison de la Culture et des Loisirs de La Roche-Posay. Exposition du Club Photo de la MCL sur le thème Portes et façades remarquables. Là aussi, l'entrée est libre et gratuite de 10h à midi, de 14h30 à 18h30. Lors du lundi détente à 14h à la M3Q, participez au vernissage de l'exposition Ligne de vie. Vous serez accueillis avec thé et café. Et puis à 20h, le Loco Comedy Club à la Locomotive, boulevard du Grand Serre à Poitiers. 7e édition de ce Loco Comedy Club avec 6 humoristes prêts à enflammer la scène. Et là, c'est gratuit aussi, mais la réservation est obligatoire. Sur Pulsar, retrouvez And the Tap Drips à 18h. À 19h, c'est X-Bull. Ce soir, Punks invite les Skivers à l'occasion de la sortie de leur nouvelle EP. Et à 21h, c'est Scrognugneux. C'était Grégory à la réalisation technique. On se quitte avec Raoul Refri, l'artiste et producteur espagnol, sort son album El Espacio Entre. Bonne écoute, à demain.
regarder.